la fête commence.
Levez-vous. Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sa modération.
Le monde et moi. Et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture vive, Sophie Torlotin.
Il fut un temps, avant l'invention de la télévision et des JT, où l'on n'avait que le cinéma comme fenêtre ouverte sur le monde. Pierre-Philippe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des arts et du spectacle, historien, documentariste, romancier, parolier, et là, auteur du livre « Ciné-actualité ».
Oui, c'est vrai, j'ai commis ça. Oui.
C'est un livre sur 60 ans d'actualité au cinéma.
Oui, c'est un tout petit peu différent, c'est j'ai choisi dans 100 ans d'actualité 60 sujets que j'ai trouvé intéressants de par leur rapport avec le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai choisi des sujets oubliés entre guillemets, mais aussi des sujets qui parlent de notre quotidien.
On est de sacrés meneuses d'hommes. Dans notre régiment de cavalerie, les cavaleuses, on nous surnomme les dragons ou les valkyries. Car nos yeux ne sont pas dans nos poches pendant le conseil de révision. Et s'il faut s'en taper des manches, on a nos petites compensations. Ainsi, durant que la nouvelle classe se présentait à nous sans caleçon, on a toutes chavirées des chasses en voyant parader Gaston. La colonelle frôle le malaise devant son maître 93. La commandante elle flash un max sur son 128 de thorax. La capitaine perd la bataille autour de son 80 de taille. Et la lieutenante son self-control en vérifiant son tour d'épaule. Que sa cuisse fit un bon 60, laisse l'adjudante pente lente. La sergente oublie toute conduite pour son biceps de 48. La caporale.
La revue de détails chantée par Juliette, une chanson que notre invité Pierre-Philippe connaît par cœur puisqu'il en a écrit
les paroles. À l'instant. Oui, non, bien sûr, mais vous savez, les chansons, ça va, ça vient. Je ne me souvenais pas de cette gaillardise militaire.
Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art.
Culture vive, Sophie Torlotin.
C'était le 12 avril 1965. Une foule de copains assiste au mariage de l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, avec Sylvie Vartan. Le cinéma est là. Tout comme les premières caméras ont saisi, sans le son, là, des images du Titanic montrées au public en mai 1912, peu après son naufrage. À voir ou à revoir aussi, utile, par ces temps de débats plus que controversés sur l'identité nationale et le référendum suisse sur les minarets, l'érection de la mosquée de Paris en 1926, ou encore le coiffeur de Tarascon, qui gagne le gros lot de la toute nouvelle loterie nationale. On retrouve ces pépites dans ces 60 ans d'archives,
oui,
Pierre-Philippe,
sûr, bien
des
sûr.
Archives Pathé-Gaumont que vous avez collectées. Vous avez retenu comme date pilier 1908-1968. Pourquoi ?
Oui, parce que pour la première, c'est très simple, c'est parce que les actualités en tant que telles, en tant que revue hebdomadaire de l'actualité, commencent en 1908. Et puis on peut dire qu'après le coup d'éclat des actualités toutes confondues des événements, comme on disait, de 68, les actualités connaissent une très rapide débâcle, parce qu'évidemment la télévision a gagné le gros lot, si j'ose dire.
Et comment est-ce que vous avez fait le tri ? Parce que on trouve dans votre ouvrage et le DVD qui l'accompagne des faits divers qui ont effrayé la chronique, comme le kidnapping du fils de l'aviateur Lindbergh, mm-hmm. des faits historiques comme le procès des incendiaires du Reichstag Allemagne,
ouais.
ou des histoires depuis longtemps oubliées, donc comme ce fameux coiffeur de Tarascon qui remporta le gros lot.
Oui, c'est pas si oublié que ça, mais c'est oublié aujourd'hui. Mais cet homme a été un héros, effectivement. C'est le premier bénéficiaire de la première tranche de la loterie nationale. C'est quand même un modeste coiffeur de Tarascon qui su voir arriver 5 millions, alors qu'il ne les attend pas du tout, parce que c'est son commis, figurez-vous, qui a été acheter le billet. Et Monsieur Bonnour, tel est le nom de ce charmant coiffeur, eh bien a donné son, par exemple, à son commis qui avait été choisir le billet, lui a donné son salon comme récompense.
Mais alors comment vous avez fait le tri? Parce que j'imagine que vous avez dû visionner des heures et
non,
des heures d'actualité.
Non, c'est pas tellement ça. Je me suis inspiré de la constitution même de ce qu'on appelait la bobine d'actualité de la semaine, c'est-à-dire cette chose étrange qui a duré entre 10 et 20 minutes, grosso modo, en général 15 minutes, et qui mélangeait des grands faits, des toutes petites choses. Et c'est ce que je voulais rendre à travers ce livre. Ce n'est pas tellement un choix historique, c'est un choix esthétique, si vous voulez. J'ai mis côte à côte des choses absolument affreuses, sanglantes, des meurtres, il y a des figures vraiment de meurtriers, il y a des accidents affreux, la reine de Belgique qui meurt écrasée, le visage écrasé dans un accident d'automobile, et puis des galipettes, enfin la descente de l'escalier du Casino de Paris par Cécile Sorel, ou l'invention de la cellophane, vous voyez, des choses comme ça. C'était ça les actualités, c'était une série de chocs. Et puis évidemment le sport qui a fini d'ailleurs par prendre presque toute la place à la fin des actualités, parce que tout ça embêtait beaucoup les gens qui avaient déjà la télévision chez eux, mais ils aimaient bien voir sur un grand écran les matchs de foot.
Les exploits. Oui. Pierre-Philippe, vous avez donc sélectionné 60 faits d'archives. Vous avez retrouvé la documentation pour chacun d'eux. Documentation mise en perspective dans le livre Ciné Actualité. Mais on a bien sûr l'image et le son grâce à un DVD disponible dans l'ouvrage. Mm-hmm. Les premières actualités sont muettes. Puis à partir de 1931, en tout cas dans votre choix, il y a l'arrivée du son. Oui. Comme avec cette archive assez savoureuse, hein, où un reporter, enfin deux journalistes ont été envoyés en Corse rencontrer Spada, bandit d'honneur.
Voici Monsieur Gray, reporter du Pâté Journal. Spada.
Heureux de faire votre connaissance. Moi, le bandit Spada, bandit d'honneur et de vengeance.
Voulez-vous nous expliquer ce qu'on entend exactement par bandit d'honneur?
On entend tout simplement par bandit d'honneur, ici en Corse, tout type qui est prêtre, qui se garde, n'est-ce pas, hors la loi, qui est prêt à donner secours à n'importe qui ce soit, qui a besoin sur la route, qui ne s'occupe pas de ses affaires. Tout simplement. Du reste, qui ne va pas voler, qui ne va pas tuer pour voler, qui fait ses affaires honnêtement, qui tue pour des affaires d'honneur de famille, pour ses affaires personnelles, s'il est pour vos gabous, s'il se défend avec la justice, n'importe quoi. Voilà, tout simplement. C'est que c'est un bandit d'honneur.
Cet exemple-là, par exemple, Pierre-Philippe, pourquoi l'avez-vous choisi?
Parce que d'abord, c'est un exemple assez rare d'une vraie interview. En 1930-31, effectivement. Et puis, cette figure de bandit d'honneur est extravagante, parce qu'il accepte contre rémunération, mais ça, c'est la petite histoire qui nous le dit. Et ça a l'air d'une farce, presque, lorsqu'on le voit. Mais en réalité, cet homme a été finalement capturé et guillotiné. Il faut pas l'oublier. Donc c'est à la fois extrêmement pittoresque. Il y avait beaucoup de, à l'époque, de chansons, de sketchs, de chansonniers, etc. sur les bandits d'honneur, comme dit Spada lui-même. Mais il faut aussi savoir que la République, à l'époque, ramassait ces gens qui étaient effectivement des sortes d'anarchistes. Quoi.
Il y a d'autres événements dans votre choix qui font écho avec l'actualité récente. C'est pour ça que vous avez choisi aussi
cette mise
en résonance.
Évidemment, il y en a beaucoup. Il y en a qui me tenaient beaucoup à cœur. Il y a beaucoup de... Alors qu'on ne peut pas dire que dans les actualités, il y ait tellement de sujets traitant du racisme, de l'antisémitisme. C'est des sujets un peu comme ça,
trop chaud.
On avait toujours peur que le public des actualités manifeste. Alors ça a été évidemment le cas pendant l'occupation où la projection des actualités dans la plupart des salles françaises était effectuée avec la lumière de la salle allumée, il faut le savoir, de façon à ce que les mouchards postés dans les salles puissent
repérer
les gens qui manifestaient. Mais effectivement, les sujets un peu comme ça, qui touchaient de près à des choses qui n'étaient pas inscrites au programme de la vie quotidienne des Français, effectivement, le racisme, tout ça, c'était un peu tabou. Et il est remarquable, néanmoins, mais ça c'est une volonté, je crois, gouvernementale, il est remarquable que les actualités aient donné une place singulière, importante et très très grande à l'érection de la mosquée de Paris entre 20 et 25, c'est ça à peu près.
Je crois que c'est 1926.
Elle était inaugurée en 26, c'est ça. Inaugurée en grand tralala avec le président de la République, etc. Et c'est passionnant de regarder par rapport à l'image. Très officielle et magnifique de la construction et de l'inauguration, de considérer la presse de l'époque, qui était évidemment extrêmement divisée, la presse de droite hurlant et la presse de gauche soutenant le projet, bien sûr.
Effectivement, en résonance avec l'actualité.
Comme aujourd'hui.
Pierre-Philippe, merci. L'ouvrage Ciné Actualité vient de paraître aux éditions Omniscience.